bienvenue, re-bienvenue dans Trudeau Landry. Le numéro de texto pour joindre toute l'équipe, c'est le 25226. Si vous avez un commentaire ou encore des informations à nous refiler. On va revenir un peu sur, disons, les origines du coronavirus, de la COVID-19. Article très, très intéressant que nous a envoyé notre prochain invité dans le Vanity Fair sur les origines, justement, de ce virus. On va aller le retrouver. Vous le connaissez très bien. C'est notre expert en politique, en actualité américaine, Raphaël Jacob. Salut, Raph!
Salut, monsieur!
Hey, Raph, c'est très étoffé, cet article-là. C'est quoi, à peu près 45 pages, l'article que tu nous as transmis du Vanity Fair. Et on s'intéresse, justement, à la fameuse théorie du lab. Est-ce que c'est un marché à Wuhan avec les animaux et tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Raph?
Premièrement, vous dire que c'est du journalisme d'enquête absolument spectaculaire, pour vrai. Et que ça fait à peu près 11 000 mots. Et c'est ça s'appuie sur des mois de recherche. On a parlé à une quarantaine d'intervenants, de gens qui étaient à l'interne. On a vu des mémos. Et que c'est vraiment époustouflant. Et ce qui ressort, évidemment, je peux pas tout vous synthétiser avec les quelques minutes qu'on a ensemble, mais le point principal qui sort de ça, c'est que une raison, peut-être la raison principale pour laquelle on a eu tant de misère à faire la lumière encore ce jour sur l'origine de ce virus-là et pourquoi pendant aussi longtemps que ça, on a écarté du revers de la main la théorie selon laquelle ça pouvait venir d'un laboratoire, pas n'importe lequel, celui de Wuhan en Chine. Ben c'est carrément parce que à l'intérieur même du gouvernement américain, il y avait énormément de pression venant de très très haut pour qu'on ne fasse pas enquête, pour qu'on ne fasse pas la lumière. Pourquoi? Parce que ça amènerait, ça risquerait d'amener une attention, disons, non désirée, non souhaitée, sur le fait que ce fameux lab-là, l'Institut de virologie de Wuhan en Chine, il avait reçu depuis des années du financement du gouvernement américain. Et là, on n'est pas, avant d'aller plus loin, là, parce qu'on a entendu tellement de niaiseries, puis il y a tellement de conspirationnistes qui se sont servis des révélations des dernières heures pour s'enflammer, là, il faut faire la part des choses. Il n'y a rien qui est démontré comme quoi ça venait de là. Il faut aussi ajouter, et ça, il faut toujours le spécifier, qu'il n'est pas question là d'une tentative d'avoir créé des armes bactériologiques. On n'est pas là-dedans. Mais ce qu'on indique, ce qu'on démontre, en fait, c'est qu'il y avait des mémos, au moins un mémo interne du département d'État, l'équivalent du ministère américain des Affaires étrangères, qui, puis là, je cite, là, parlait d'avertissement de ne pas mener d'enquête sur l'origine de la COVID-19 parce que ça ouvrirait une canne de verre. Fin de la citation. Puis, avant de prendre vos questions, parce que je sais que vous allez en avoir, juste boucler la boucle rapidement. C'est quoi la canne de verre en question? Ben, c'est la fameuse question dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire les recherches qu'on appelle de gain de fonction. On prend un virus, par exemple celui du SRAS, on le transforme génétiquement en laboratoire pour lui donner des propriétés pathogéniques plus grandes, autrement dit, le rendre plus dangereux. Et c'est pas compliqué, messieurs, là. Des labs dans le monde qui font ça, là, il y en a trois. Il y en a un au Texas, un en Caroline du Nord, puis l'autre, je vous laisse deviner où, à Wuhan, en Chine. Puis le gouvernement américain a les deux mains dans ces trois labs-là depuis des années.
Donc, si on résume là grossièrement, c'est que les États-Unis, où là où la position peut être gênante, embarrassante, c'est que c'est comme si tu veux pointer du doigt la Chine en disant ben c'est une possibilité que le virus ait été créé en laboratoire, mais là tu vas te faire dire ouais, mais c'est toi qui as financé le laboratoire.
C'est exactement ça. La panique, imaginez la panique carrément que ça a pu créer en février, en mars 2020, quand on a appris au sein du gouvernement américain, aux plus hauts échelons du gouvernement américain, qu'il y avait ce nouveau virus respiratoire-là qui venait d'émerger spécifiquement de cette région-là. Et il y a aussi ceci dont l'article fait état, qui, tu sais, glace un peu le sang. Avant la pandémie, il y avait des enquêteurs du gouvernement américain qui, eux, étaient avec ce qu'on appelle le NSC, le Conseil de sécurité nationale, qui avaient fait enquête dans ce laboratoire-là. Et ce qu'ils avaient découvert, essentiellement, c'est que les recherches de gain de fonction avaient lieu. Ça, on le savait à l'interne depuis des années. Il y a même la possibilité qu'on les ait financées au moins directement, encore une fois. Mais c'est surtout que ces recherches-là étaient menées dans des environnements, puis je cite l'article, là, qui avaient un niveau de sécurité comparable à un bureau de dentiste. Puis c'est parce qu'on en a tellement peu parlé de façon ahurissante dans les médias qu'il faut comprendre c'est quoi les recherches de gain de fonction. C'est oui, ça peut avoir un objectif qui est parfaitement louable, qui est même admirable, c'est-à-dire essayer de prévenir, de se parer à de possibles futures pandémies en étant peut-être capable d'anticiper les mutations que pourraient connaître des virus. Mais en même temps, c'est que c'est tellement dangereux parce que on vient encore une fois rendre encore plus létal, encore plus dangereux, encore plus mortel des virus qui peuvent déjà l'être à la base. Ouais. Tu sais, le virus du SRAS, c'était épouvantablement dangereux. Fait que imaginez les risques qu'on court en faisant ça s'il n'y a pas un niveau de sécurité adéquat. Et quand vous ajoutez à ça le fait que le contribuable américain a peut-être à coup de centaines de milliers, voire de millions de dollars, financé ça, tu sais, pouvez-vous réaliser encore une fois la pression qu'il peut avoir à l'interne et l'incitatif que ça a donné pour, ne pas nécessairement faire la lumière sur tout ça, là?
Mais Raph, justement, parlant de faire la lumière, là, si je résume, et sur le fond de la question, il y a eu le Wall Street Journal qui a sorti quelque chose il y a une dizaine de jours. Là, il y a l'article du Vanity Fair, il y a les politiciens qui parlent de ça. Est-ce que ça commence à être un peu plus clair, l'origine de base du coronavirus, entre le lab, le marché, ou peut-être la combinaison des deux? Est-ce qu'on commence à voir plus clair un peu sur le fond de la question?
Je dirais que ça dépend de la perspective. Mmh. C'est-à-dire que, premièrement, je le répète parce qu'il faut toujours être clair. Moi, je me fais bombarder de messages souvent carrément débiles. Là, je choisis mes mots là depuis les dernières heures. J'ai beaucoup tweeté là-dessus. Puis j'en reçois un après l'autre. Des dans certains cas, c'est carrément des conspirationnistes. Là. Trump avait raison. T'as essayé d'étouffer ça pendant des... Voyons, premièrement, personnellement, là, je dis, je n'ai jamais discrédité l'une ou l'autre de ces théories-là. Je le sais pas parce qu'on ne le sait pas. Ok. Et j'en parle depuis un sacré bout de temps. En même temps, encore une fois, que ce soit la théorie du lab, que ce soit la théorie, en guillemets, naturelle, celle du marché, il n'y a aucune preuve, hors de tout doute, qui démontre l'une ou l'autre. Et c'est que ce débat-là a tellement été empoisonné, politisé depuis le début, justement, que c'est rendu, tu sais, John se demande, est-ce que c'est plus facile de faire la lumière? Je dirais que c'est peut-être, dans un sens, plus difficile. Mmh. Parce que oui, il y a davantage de révélations qui sortent, mais en même temps, avec tout le temps qui a passé, aller justement chercher des preuves, c'est de plus en plus difficile. Et ça aussi, il faut toujours le rappeler. Si ça a eu lieu, en fait, que ça a eu lieu dans le marché ou que ça a eu lieu dans le lab à la base, ce qui est clair, c'est que ça vient de la Chine. Et ce pays-là n'est pas les États-Unis, n'est pas le Canada, n'est pas la Belgique, n'est pas la France. C'est une dictature. Et donc, ils ont tout fait. Ils avaient fait la même chose, soit dit en passant, il y a à peu près 20 ans, dans le cas du premier SRAS, si on veut, le SRAS-CoV-1. Ils l'ont fait encore avec le SRAS-CoV-2, ce qu'on appelait le coronavirus, la COVID-19 dans ce cas-ci. Étouffer, essayer de faire taire les témoins, les gens qui étaient impliqués. Fait que, tu sais, après 15, 16, 18 mois, essayer de faire la lumière de façon définitive, ça va être épouvantablement difficile pour pas dire... tragiquement impossible dans tout ça. Là.
Raphaël, il nous reste à peine 2 minutes. Un mot sur Donald Trump là, qui a fermé son petit blog là, digne des premiers blogs WordPress d'il y a 15 ans. Comment on interprète ça? Est-ce qu'il s'en vient avec son propre média? Qu'est-ce que t'as-tu?
Avais-tu ton propre blog, Joe, en 2003, 2004?
Non, j'avais pas ça.
Tu sais que c'est personnellement ce qui m'a quand même fait rire dans cette affaire-là, c'est que à l'interne, apparemment, Trump l'aurait fermé parce qu'il était frustré de voir qu'il n'y avait pas plus de lecteurs. Puis tu sais, tu te dis, le gars, clairement, était un maître des médias sociaux, avait pas compris qu'en 2021, les blogs, là, tu sais, ça avait plus vraiment la cote. C'est fini. Mais sérieusement, écoute, d'un point de vue médiatique, c'est difficile de savoir ce qu'il va faire. On sait même pas, soit dit en passant, si Facebook va finir par le réintégrer, parce qu'on le rappelle, cette décision-là, elle n'a pas encore été rendue de façon finale. Ce que je peux vous dire, par contre, ce sont deux choses. Premièrement, dans les prochains jours, il doit donner un discours carrément à une conférence conspirationniste. Puis encore une fois, je choisis mes mots parce que c'est ce que c'est. Conférence conspirationniste nationale. Et à l'interne, et ça, même le New York Times en a parlé cette semaine, puis je sais que ça peine à être cru, mais écoute, apparemment, le délire a pris en ampleur depuis son départ de la Maison-Blanche. Il confierait à des proches depuis des jours que personnellement, il s'attend à réintégrer ses fonctions présidentielles au mois d'août.
Bon.
Fait que ça va bien à Mar-a-Lago.
Ça va bien aller. Hey, merci beaucoup, Raph. Toujours un plaisir. Bon week-end. Raphaël Jacob, donc, notre chroniqueur politique. Il a raison, on dirait que plus on lit sur l'histoire là, de la théorie du lab versus le marché à Wuhan, les chauves-souris, etc., on dirait que c'est encore plus... c'est encore un petit peu plus embrouillé tout ça, mais c'est quand même bien intéressant. C'est très très étoffé, sérieux, si vous lisez l'anglais là. Il y a souvent des bons articles dans ce genre de magazine là, Vanity Fair. Des fois ils font t'as des photos de mode ou sur les artistes, mais il y a souvent des bonnes enquêtes journalistiques dans ce genre de magazine là. Presque 10h56, vous écoutez Trudeau Landry. On vous rappelle que ce soir c'est le match du Canadien sur nos ondes, diffusion officielle du Canadien. Émission d'avant-match autour de 19h avec Martin McGuire et Danny Dubé. Il y a 19h30. On drop la poque, comme on dit. Match 2 entre les Jets et le Canadien.